C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Au cœur du Pacifique, la Polynésie et ses 118 îles abritent une biodiversité marine extraordinaire. Sur l'île de Moorea, un pied dans l'eau et les poissons arrivent. La tête sous la surface et le corail multicolore jaillit, les requins, les tortues et même les baleines viennent vous frôler. Sur Terre, à part quelques hôtels plantés sur le rivage, les arbres au vert d'hiver s'étalent au bas des monts sacrés escarpés. Des paysages qui semblent figés, juste pour nous démontrer que la luxuriance de la nature n'est pas qu'un concept.
Je suis Frédéric Torrent, je suis anthropologue au CRIOB, qui est le centre de recherche et observatoire de l'environnement sur l'île de Moorea.
Alors là, nous venons d'arriver sur l'île de Moorea. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, vous qui la connaissez bien ?
Oui, mais Moorea, c'est une petite île qui est juste à côté de Tahiti, qui est à peu près à une demi-heure de bateau. Le propre de Moorea est qu'elle accueille chaque année plus de 80 000 visiteurs. Hein.
Pour une population de ?
À peu près 17 000 habitants.
Et la population ici, vous qui êtes anthropologue, vous le savez bien, a historiquement un rapport particulier à son environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rapport à l'environnement existe toujours ?
Oui, bien sûr. Mais avant de parler de rapport à l'environnement, je préférerais parler d'autrefois, de la société ancienne, des relations des Polynésiens à leur environnement, qui est d'ailleurs le terme environnement lui-même est un terme européen. Pour les Polynésiens, il n'y a pas de différence entre nature et culture.
Le mot nature n'existe pas.
Non, le mot nature, natura, était un néologisme pour coller aux concepts occidentaux après l'évangélisation. Parce que, simplement, les Polynésiens ont une vision holistique où tous les éléments, que ce soit les hommes, les esprits, les animaux, sont intimement liés, font partie d'un tout qui est donc leur univers particulier.
Est-ce qu'aujourd'hui, les Polynésiens ont toujours un rapport très fort, très intime avec cet environnement, malgré la mondialisation, malgré les touristes.
Bien sûr, surtout qu'on est dans un contexte aujourd'hui où, de mondialisation où les Polynésiens ont parfois le sentiment de perdre un petit peu non seulement leurs repères, mais également leurs terres. Et les Polynésiens, certaines communautés, ont l'impression de ne pas toujours profiter, notamment du tourisme à Moorea, par exemple.
Et ça se traduit comment ? Est-ce que la population s'organise en association ?
Justement, nous allons aller voir deux associations culturelles et environnement de l'île, les deux principales. On va pouvoir aller voir Inano Murphy et après on ira voir Maurice Rouroy. Et ces deux associations se battent justement pour trouver un équilibre entre la gestion actuelle, moderne, du territoire et défendre leurs valeurs culturelles et leurs préoccupations en Polynésie.
Pour aller voir Inano, on prend la voiture ?
Allez, on prend la voiture. On va prendre le vieux 4x4 et on y va. Donc là, nous allons voir Inano Murphy, qui est présidente d'une association culturelle et environnementale de l'île de Moorea. Il y en a deux, donc nous allons voir Inano en premier.
Bonjour. Yaorana. Alors on s'embrasse ici.
Mmh. Oui, on s'embrasse ici.
Merci de nous recevoir.
Je vous en prie.
Alors donc vous avez créé avec beaucoup de gens ici à Moorea une association en 2002. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle s'appelle et ce que ça signifie ?
Alors, cette association s'appelle Te Pu Atitia, qui s'est montée en février 2002, avec l'aide d'anciens qui habitent tout autour de l'île et qui sont des experts, mais en même temps, beaucoup d'agriculteurs, de pêcheurs, enfin, voilà.
Pourquoi est-ce que vous avez eu l'envie de créer cette association ? Ça vient d'un diagnostic que vous avez fait quand vous étiez enseignante ?
Le diagnostic était surtout que ces enfants décrochaient parce qu'ils n'y trouvaient pas du tout d'intérêt au système scolaire, d'abord parce que le système scolaire commençait dans une langue qui était complètement différente de la leur, parce qu'on supposait au départ que le Polynésien, eh bien, il avait pour langue maternelle le français.
Et votre idée en créant cette association, c'était de permettre aux enfants de découvrir leur environnement, la biodiversité terrestre et marine, et à travers cette découverte de l'environnement, de leur réapprendre leur culture.
Le premier point, c'est de redorer l'image du Polynésien dans sa vie, dans sa culture, dans son identité. Et le deuxième point, c'était qu'il fallait qu'ils aient un espace physique qui pouvait favoriser cette transmission de toutes ces connaissances dont disposaient ces familles, puisque ces connaissances, elles sont encore là, mais peut-être pas là pour longtemps, parce que nous avons vu des personnes âgées disparaître au sein de l'association.
Avec leur savoir.
Avec leur savoir, donc c'est vraiment plusieurs livres qui se referment à jamais.
Par exemple, qu'est-ce qu'ils souhaitaient transmettre ?
D'abord, le Polynésien a une vision traditionnelle de la protection de son environnement. C'est-à-dire que sa vision, elle partait du sommet des crêtes jusqu'au-delà des récifs. Tout était lié, quoi. Voilà comment on voyait tout cet espace dont on avait la gestion, et une gestion quotidienne. Et par rapport à ça, eh bien, les ancêtres avaient des marqueurs sur la terre pour pouvoir deviner ce qui pouvait se passer sous l'eau.
Quand vous dites des marqueurs, c'est quoi ?
Par exemple, on va dire, ah bien tiens, quand le pandanus fleurira, c'est le moment où les pieuvres sortent de leur trou, voilà. Donc, ces marqueurs-là, ils sont importants. Il faut faire passer ça au niveau des enfants et le faire passer de manière ludique, avec tous les sens. On ne va pas juste décrire ou montrer une photo, mais on va aller vers cette plante, on va la prendre, on va cueillir, on va décortiquer, on va essayer de voir, on va parler de cette plante, on va se référer aux contes, aux légendes qui parlent de ces plantes, on va voir les usages, on va acquérir ça par tous ses sens. Et c'est ça qui est important, c'est de le remettre dans ce contexte-là pour pouvoir mieux connaître telle ou telle espèce qui est sur Terre.
Aujourd'hui, vous accueillez dans votre centre à peu près 1000 enfants par an. Vous formez aussi des enseignants. Pourquoi il y a urgence à faire ce travail ?
Il y a urgence parce que nous avons déjà des indices qui nous montrent que nos enfants sont en difficulté. Ils sont dans un mal-être. Mais il y a également tous les enjeux liés à l'environnement et tous les enjeux liés à la perte de la culture, parce que bon, une plante qui disparaît, c'est toutes les pratiques culturelles qui disparaissent avec, et c'est tout un vocabulaire que nous utilisons dans notre vie quotidienne qui ne sera plus utilisé. Et si on veut vraiment garder un peuple, si on veut garder cet équilibre, eh bien il faut commencer par ces actions-là. Et l'enfant doit être au milieu, doit être l'objectif.
Frédéric Torrente, vous êtes anthropologue. J'imagine que le témoignage d'Inano vous parle.
Oui, bien sûr. Mais ça fait des années que je travaille avec Inano. Elle a su transmettre avec beaucoup d'émotion en fait, son vécu et les difficultés qu'ont les communautés polynésiennes à parfois faire la distinction entre leur passé, vivre en tant que Polynésien et s'insérer dans un monde actuel qui est changeant et parfois très très changeant. Moréa est une île qui a eu une croissance de la population déjà en elle-même de 300% en 40 ans, ce qui est énorme. Et en plus, il y a ces visiteurs étrangers, enfin ces touristes qui viennent. Et forcément, au niveau de la pression du lagon, eh bien, ça pose certains problèmes. Et les problèmes essentiels pour les communautés polynésiennes, effectivement, ce sont les pêcheurs. Hein, les pêcheurs qui ont quand même le droit d'accéder à leur lagon. Et ces pêcheurs de Moréa ont des soucis actuellement, des soucis de respect déjà, puisque quand un jet ski passe à côté de vos lieux de pêche, forcément, ça dérange un petit peu. Mais pas que ces soucis-là, des soucis de gestion. Et donc, la commune de Moréa est très active au niveau de la gestion de son environnement, hein, il faut le noter. Et il y a sur l'île de Moréa un plan de gestion de l'espace maritime qui existe depuis 10 ans maintenant, qui est un cas donc assez unique en Polynésie.
Ça veut dire quoi, un plan de gestion de l'espace maritime ?
Alors c'est justement un moyen donc moderne, puisque c'est quand même un concept occidental, qui sépare malheureusement pour l'instant l'espace maritime de l'espace terrestre, alors que normalement pour les Polynésiens il n'y a pas de rupture, il y a plutôt une continuité. Hein, donc on a un plan de gestion de l'urbanisme terrestre et un plan de gestion de l'espace maritime qui fait intervenir des acteurs qui sont différents.
Ce plan de gestion de l'espace maritime, il implique quoi ?
Eh bien, il implique tout un tas de mesures, justement, ou de respect et éventuellement d'interdiction de certaines pratiques en fonction des usagers du lagon, pour que tout le monde arrive à mieux vivre ensemble. Ce PGEM est géré par une association locale, donc, dont nous allons aller voir donc, le représentant, qui est Maurice Lourois.
Il est en train de construire une maison traditionnelle, c'est ça ? On va le déranger sur ce chantier ?
Oui, ils sont en train de construire un faré traditionnel, un faré poté, qui va permettre justement de faire de la formation pour les enfants par rapport à la clinique des tortues, qui est donc une structure gérée par Temana Otemoana.
Une structure que nous irons visiter un petit peu plus tard. Eh bien, allons voir Maurice. Bonjour.
Yorana.
Yorana.
Que tu vives.
Merci. Meuru.
Meuru mede.
Bon, là, mon tahitien s'arrête là.
Moi aussi, mon français, ça s'arrête aussi là.
On va essayer quand même de faire une interview.
Oui, oui.
Une interview, c'est un mot anglais. Une entrevue, alors.
Eh bien, tahitien, affaire là.
Je peux vous demander de vous présenter ?
Ben, je suis Maurice Rourua. J'habite Mouria.
Et vous êtes le président d'une association qui se bat pour la protection du lagon de Mouria. Comment s'appelle votre association ?
Alors, notre association s'appelle Punareo. Ça veut dire le nid de la langue, pour pouvoir apprendre aux enfants sa culture.
Avec votre association, vous faites beaucoup de choses, mais vous vous battez notamment pour la protection du lagon.
Alors, tout à fait, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde ici à Mouria. Et tout d'un coup, il y a cette vague de touristes et des gens qui veulent construire sur Mouria pour les hôtels, alors ça a bouleversé tout le monde. Un jour, il y a l'hôtel qui s'appelle maintenant Hilton, Sheraton dans le temps, ils voulaient creuser le sable de chez nous. Et l'endroit où ils veulent creuser, c'est l'endroit où il y a les nidations de poissons. C'est un endroit historique, légendaire pour nous. C'est pour ça que, bon, on s'est combattu. On a fait des sit-ins pendant 3 mois. On est allé au tribunal et on a gagné. On a dit non. Non, nos parents, des milliers d'années, sont nourris de cet endroit des poissons.
Et du coup, vous essayez de réintroduire aussi des pratiques traditionnelles pour protéger le lagon. Alors ça se passe comment ?
Il faut bien comprendre que dans le lagon, la gestion était déjà préparée par nos parents. Il y a des endroits d'inondation de poissons, il y a des endroits, ce sont des petites passes. Ils savent aussi à ce moment-là que tel endroit, telle nuit, telle lune, vous allez là-bas mettre vos filets de ne pas détruire cet endroit-là.
C'est-à-dire qu'on regarde la position de la lune, la position du soleil, et en fonction de ça dans l'année, on choisit si on pêche à tel endroit ou à tel autre ?
Oui. C'est-à-dire, pour nos parents, ce n'est pas la peine d'aller mettre les filets n'importe où. Il n'y a pas de poisson, il faut aller pêcher le poisson qui vient à ce mois-ci.
Et ce plan de gestion de l'espace maritime, est-ce qu'il inclut, par exemple, cette tradition des raouis ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette tradition ?
Il y a un raoui général, il y a des raouis intermédiaires. Le raoui général, on dit, bon voilà, de tel endroit à tel endroit, on ne va plus pêcher pendant un an. C'est bien préservé, pendant un an, on ne pêche pas là-bas. Il y a d'autres rahouis, c'est-à-dire, tu vas pêcher le mérou le matin de bonne heure avant le lever du soleil. Et ne pas aller pêcher les poissons qui sont sous les coraux parce qu'il a envie de secouer ses œufs.
C'est-à-dire qu'il y a des interdits aussi des traditionnels.
Voilà.
Et qui respecte ça aujourd'hui ?
Personne. Personne ne respecte. Et je peux te dire que, à force, la population se met dans la tête que bon, c'est le moment de s'y mettre. Alors c'est eux-mêmes qui mettent des règles, des petites règles, qui disent que bon voilà, on est des riverains, c'est à nous à protéger cet endroit-là.
Parce qu'ils voient au fur et à mesure la quantité de poissons diminuer.
Exactement, voilà, au fur et à mesure. Donc ça nous fait plaisir, on nous fait plaisir à ce moment-là.
Donc vous vous dites que là, votre combat n'est pas perdu, il faut enseigner les bonnes pratiques, vous êtes sur la bonne voie.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a monté l'association Punareo, pour pouvoir expliquer aux enfants. Ils rentrent à la maison et disent, on a appris ça Et des fois, les enfants connaissent mieux que les parents. C'est pour ça que ça a beaucoup amélioré.
Dis bonjour.
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 Bonjour les enfants.
Vous allez
parler ici comme ça. Alors, ça va? Alors, vous vous êtes venus ici aujourd'hui, on va parler des coraux, ok? Est-ce qu'un corail, c'est un animal?
Non.
Non, ok. Est-ce que c'est un végétal?
Oui.
Ok. Est-ce que c'est un minéral?
Non.
Eh bien, si. Le corail, c'est trois choses. C'est un animal, l'animal qui vit dedans, est-ce que vous avez déjà entendu parler du polype?
Non.
C'est un animal qui vit dedans. Ensuite, il va y avoir un végétal. On va l'appeler l'algue zooxanthelle. Celle-ci, c'est l'énergie du corail. Et ensuite, il y a une troisième chose. Le corail, c'est aussi un minéral. C'est ce que nous, on voit quand on touche. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est mou? C'est dur, d'accord? Un animal, un végétal et un minéral.
Bonjour, okay. Yarana. Je m'appelle Vista Bill et je suis directrice de l'association Temana Otemoana, l'esprit de l'océan en Polynésie. Alors, on est une association qui protège l'environnement marin et on travaille beaucoup dans l'éducation, la recherche et la conservation de notre patrimoine.
Là, on vient de voir un groupe d'enfants arriver. Ils viennent passer la journée ici. Qu'est-ce que vous leur apprenez?
On essaye beaucoup d'expliquer aux enfants la nécessité de protéger notre environnement marin. Le problème, c'est que si on ne comprend pas et qu'on ne l'apprend pas et qu'on ne le découvre pas, on a du mal à comprendre comment il faut le protéger. Donc, on accueille les scolaires 2 à 3 fois par semaine, toute une matinée, pour leur proposer des programmes sur les récifs coralliens, les tortues marines et les mammifères marins.
Qu'est-ce que vous leur expliquez alors?
Alors on leur explique tout, on leur explique le rôle de chaque individu dans son milieu, on leur explique que dans la mer, il y a des habitants qui ont des métiers comme nous sur Terre, on leur explique pourquoi il faut leur protéger les tortues marines, pourquoi il faut protéger les mammifères marins, pour eux, pour leur avenir et pour tout ce qu'on va leur laisser.
Vous avez beaucoup de matériel pédagogique, vous avez inventé beaucoup de choses ludiques justement pour faire passer ces messages.
Oui, alors l'association a été créée en septembre 2004, donc ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on crée beaucoup de supports pédagogiques qui sont agréés par la direction de l'enseignement primaire de Polynésie française. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est beaucoup basé par rapport au programme scolaire français. Donc notre mission première, c'était de créer des outils qui étaient adaptés à nos enfants. Quand on parle de la baleine à bosse, on parle de celle de l'enseignement Antarctique qui vient dans nos eaux, qu'est-ce qu'elle vient faire? Quand on parle de la tortue marine, c'est la tortue marine qui est chez nous, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va? Et après, on leur permet de visiter la clinique des tortues marines que l'on gère, qui est autorisée par arrêté ministériel. On va expliquer les pensionnaires qu'on a, pourquoi il faut les protéger maintenant, le nom en français, en tahitien, leur rôle dans l'environnement marin, qu'on a des éboueurs sur terre, mais aussi dans la mer, et puis des docteurs. On essaie de faire tous ces petits liens qui vont leur faire prendre mieux conscience de la nécessité de protéger l'environnement.
Et pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de venir ici sur l'île de Mouréa, vous avez créé une malle pédagogique qui se promène?
Oui, alors on a créé beaucoup de malles, on en a une sur les récifs, une sur les tortues, et après on cherche des financements tout au long de l'année, comme toute association, pour essayer de mener à bien en fait des projets qui nous intéressent. Et on va faire des séances d'animation dans les classes, donc dans ce cadre on peut aller jusque dans les Tuamotu, on part dans les îles éloignées pour faire ça, et on organise pour valoriser en fait ce que font les enfants, on organise des échanges entre classes et des productions d'œuvres qui sont après valorisées les années d'après au sein des écoles, des institutions, auprès des médias.
Donc les graines sont semées pour les prochaines générations?
Oui, je pense qu'un adulte, pour changer ses habitudes, c'est très très dur. Un enfant, il est novice, il est prêt à accepter, il est prêt au changement, il est prêt. Le plus important, et on reste convaincu que c'est ces millions de petits gestes, de petits enfants qui, assemblés tous ensemble, nous permettront de changer les choses.
Nous laissons les enfants découvrir le lagon de Mouréa. Nous avons rendez-vous à quelques kilomètres de là avec Serge Plane, le directeur du CRIOB, le Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement, l'un des plus éminents laboratoires du monde pour l'étude des écosystèmes coralliens. On se retrouve juste après le flash d'info. À tout de suite.